Vendredi 9 mars, l'info sur RMC.
RMC 9h02, le rappel de l'actualité, Chloé Cambrelin.
Nordal-Lelandais a avoué début février aux enquêteurs avoir pris Arthur Noyer en stop. Information BFM TV, l'homme de 34 ans est mis en examen pour l'assassinat du jeune caporal. Il assure l'avoir pris dans sa voiture le soir de sa disparition en avril dernier en Savoie, mais affirme qu'il l'a déposé un peu plus loin. Nordal-Lelandais, qui a reconnu avoir tué la petite Maïlys, c'était il y a 3 semaines. Hier, les parents de la fillette ont dénoncé son si long silence. Leur avocat ce matin dit sur RMC avoir été très déçu du dernier interrogatoire de Lelandais dans ce dossier. Il avait tourné court. L'homme de 34 ans n'a toujours pas dit ce qui s'était passé. Durant des semaines, il y a eu les provocations, les menaces des deux côtés. Une escalade qui faisait craindre le pire entre Washington et Pyongyang. Cette nuit, un incroyable changement de ton. Donald Trump et Kim Jong-un devraient se rencontrer. C'est le leader nord-coréen qui a proposé. Le président américain a dit oui. La rencontre pourrait avoir lieu d'ici au mois de mai. Cédric Fesch, vous êtes le correspondant d'RMC et BFM TV à New York. Cette rencontre serait historique. Alors comment expliquer ce spectaculaire revirement ?
C'est sûrement parce que Kim Jong-un a annoncé lundi qu'il était prêt à dénucléariser la Corée du Nord si la sécurité de son pays était garantie. C'était la condition indispensable pour les États-Unis avant d'envisager des discussions. Alors on ne sait pas encore où aura lieu la rencontre, mais Donald Trump a donné des conditions dans un tweet. Une vraie dénucléarisation, pas juste un gel, plus de tests de missiles et le maintien des sanctions jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Cette avancée est aussi inattendue que spectaculaire parce que rappelez-vous qu'en septembre dernier, Donald Trump menaçait encore depuis la tribune de l'ONU de détruire totalement la Corée du Nord en surnommant Kim Jong-un l'homme fusée, et quelques jours plus tard, il déclarait qu'on perdait son temps en essayant de négocier avec lui. Alors tout ça, c'est peut-être du passé, et si Donald Trump parvient à normaliser les relations avec la Corée du Nord, alors que tous ses prédécesseurs ont échoué depuis plus de 60 ans, ce sera un tournant dans sa présidence et il pourra, une fois de plus, se vanter de maîtriser l'art du deal.
Donald Trump qui désormais inquiète sur un autre dossier. Il va bien taxer les importations d'aluminium et d'acier à hauteur de 10 et 25%. Seul le Mexique et le Canada devraient être épargnés. Donald Trump, c'est l'incarnation du souverainiste protectionniste. Réagit ce matin Olivier Besancenot sur RMC et BFM TV. L'ex-porte-parole du NPA qui fustige la réforme à venir à la SNCF, la fin du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. Ce ne sont pas eux les privilégiés, dit Olivier Besancenot, qui critique le comportement des grandes entreprises du CAC 40, l'indice qui a connu en 2017 sa meilleure année depuis 10 ans.
Quand même, les profits des entreprises du CAC 40 se portaient mal les années précédentes. Enfin mal, tout est relatif. Hein. La part qui revient sous forme de dividendes aux actionnaires, elle était toujours stable. C'est une dinguerie, ce que je suis en train de vous dire, mais qu'on ait des entreprises du CAC 40 qui fassent des profits de 60 milliards ou de 90 milliards, ce qui retourne à la rémunération des actionnaires, c'est-à-dire ce qui va dans leur poche, c'est rester stable aux alentours de 40 milliards. Ces fameux profits ne vont ni à l'emploi, ni au salaire, mais pas même à l'investissement, et qui met à mal le discours du gouvernement actuel comme les précédents, qui consiste à dire faites en sorte qu'on donne beaucoup aux riches, aux possédants, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez bénéficier de quelques miettes, bah ça ne marche pas. Oui, le fameux ruissellement, ça ne marche pas. Les vrais parasites, les vrais privilégiés, ils sont là.
Je suis prête à partir si le dialogue est possible. Je serai à Mayotte dès la rentrée lundi. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, nous le dit ce matin sur RMC. Le département français est secoué depuis 3 semaines par un grand mouvement de protestation pour plus de sécurité. Les manifestants se disent prêts à encercler le chef-lieu Mamoudzou lundi. Marseille et Lyon remportent leur 8e de finale aller en Ligue Europa. Hier, l'OL a gagné 1-0 en Russie contre le CSKA à Moscou. Marseille a battu au Vélodrome l'Athletic Bilbao 3-1. Florian Thauvin est sorti sur une civière. Il s'est blessé à la cheville. Et puis ce soir, ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Monaco-Strasbourg à suivre à partir de 20h45 sur RMC. Et le début des Jeux Paralympiques à Pyeongchang. Cérémonie d'ouverture à midi en heure française. Il y a 4 ans, la délégation tricolore avait décroché 12 médailles, dont 5 en or.
RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin.
Et puis je n'oublierai pas un match très important de Ligue 2 ce soir, Orléans-Nîmes.
On n'en a pas parlé, Chloé ?
Non, Chloé n'en a pas parlé. Non, mais c'était absolument
parce
incroyable.
Parce que vous avez plus de temps avec Olivier
Besancenot.
Non,
oui,
non. On parlait du PSG.
D'accord. Mais, d'ailleurs, je vais aller à Orléans ce soir pour assister à cette rencontre. C'est un club très sympa, en plus, vraiment Orléans. Non, mais c'est vrai. Je salue, d'ailleurs, et le président et tous les dirigeants de ce club. C'est vrai que s'il y a un club où on est bien accueilli, c'est à Orléans. Donc je suis très content d'y aller ce soir pour voir jouer mon équipe, hein, Nîmes Olympique, en espérant que nous... avoue Orléanais que nous obtenions un bon résultat. Bon, on verra bien. 9h07, allez, parlons de nos deux bureaux de vote, les urgences, dans un instant, avec Christian Prudhomme, qui est médecin urgentiste à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, Christophe Prudhomme. Et puis, ensuite...
Ensuite, nous allons parler de tatouage, parce que aujourd'hui, démarre... Vous êtes tatoué, Jean-Jacques?
Non.
Monsieur Prudhomme?
Non.
Je demande à tout le monde depuis ce matin.
Et vous non plus?
Non, moi non plus. Venez nous aider du coup, parce qu'en plus les tatoués vont le reconnaître. On reçoit Tintin à 9h30. C'est une immense star dans le monde du tatouage. Oui. C'est la star des tatoueurs, le tatoueur des stars, vous choisirez. Le mondial du tatouage ouvre ses portes aujourd'hui, jusqu'à dimanche à Paris. C'est un énorme événement. Il y a 7 millions de Français.
C'est l'organisateur du mondial.
Oui, c'est lui qui l'a initié, qui l'a organisé, et puis qui il est très très réputé.
Combien
dans
de
le
Français tatoués?
7 millions.
7 millions.
7 millions. Un quart des moins de 35 ans.
Oui.
C'est plus une mode à ce niveau-là. C'est devenu.
C'est considérable, considérable. D'ailleurs, nous avons un nombre d'appels incroyable
et de témoignages. Et puis vous envoyez des photos. En plus, c'est très sympa. Vous continuez. On va parler du tatouage, de l'image du tatouage dans la société.
Ça a bien changé, hein. Ça a évolué.
Ça a beaucoup évolué.
D'abord, de plus en plus de femmes, jeunes ou moins jeunes, se font tatouer.
De plus en plus de tatoueuses aussi.
C'est une affirmation d'une indépendance, d'une liberté aussi, hein. Évidemment. Il y a moins de tabous autour du tatouage.
Beaucoup moins aujourd'hui, quoique encore certains, vous entendrez des témoignages tout à l'heure. Vous allez nous dire aussi si vous avez regretté votre tatouage, si vous êtes passé par le laser, vous témoignez ce matin au 3216 sur rmc.fr, vous l'aurez compris. C'est pas Jean-Jacques et moi qui sommes experts du tatouage, on a besoin de vous pour débattre avec Tintin ce matin.
Bien, il est 9h08, mais parlons des urgences. Des urgences avec la question que nous posons.
Les urgences se dégradent-elles? Oui ou non, par SMS au 6-10-71.
Bien. Que s'est-il passé à Reims, aux urgences de Reims? C'était mardi, une femme de 73 ans est admise pour des problèmes de circulation sanguine. Elle décède sur son brancard après 2h30 d'attente aux urgences. Cette femme retraitée a ressenti des douleurs dans les jambes, problèmes de circulation. La maison de retraite dans laquelle elle réside appelle les ambulanciers. Ils la prennent en charge. Ils arrivent aux urgences 6 minutes après la prise en charge. Mais là, son état est jugé stable, pas prioritaire. Il y a 4 autres urgences vitales à gérer. Cette femme restera allongée sur le brancard des ambulanciers pendant 2h30. Elle succombe à un arrêt cardiaque. Pour la direction de l'hôpital, aucune erreur n'a été commise dans la chaîne de décision. Mais pour beaucoup de professionnels de terrain, le cas de cette dame illustre bien l'état de saturation des urgences, Christophe Prudhomme. État de saturation des urgences.
État de saturation des urgences. Vous savez, il y a quelques temps, le même cas s'est produit à l'hôpital Cochin, à Paris. Il y a une saturation. La défense de la direction de l'hôpital, aujourd'hui, n'est pas acceptable. Nous manquons de moyens... En termes de lits, vous savez, une des raisons pour lesquelles les urgences sont engorgées, pourquoi cette dame n'était pas
dans
un box?
Pourquoi 2h30 dans un
box? Parce que nous avons en ce moment une augmentation d'activité, comme on a périodiquement tous les hivers, mais l'hôpital fonctionne à flux tendu. Or, c'est un non-sens en termes de gestion hospitalière. Un hôpital ne peut pas fonctionner à flux tendu. En permanence, nous devons avoir 20% de nos capacités en termes de lits disponibles. Or, les gouvernants et notre ministre actuel continuent à nous dire « faut fermer les lits ». Et nous, les professionnels de terrain, nous disons non. La première cause de dysfonctionnement des urgences, ce sont les patients qui attendent un lit. Donc quand ils sont dans un box en attendant un lit, eh bien ceux qui arrivent restent à l'extérieur sans surveillance. Donc la direction de l'hôpital de Reims a une responsabilité. Comme aujourd'hui, parce que vous savez, nous venons, nous les urgentistes, régulièrement pour dénoncer depuis de nombreuses années ces problèmes. Le nombre de services d'urgence aujourd'hui en grève est très important. Toulon, Dijon, j'ai eu les collègues de Dijon ce matin où ça ne va pas bien. Besançon, où une collègue a tenté de se suicider récemment. Les urgences de Troyes qui ont été obligées de déclencher le plan blanc. Le plan blanc, c'est le plan hors sec des hôpitaux. Les urgences de Lyon qui sont en grève, Toulon. Donc ça suffit. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes très sévères. Moi, je vais comparer. La ministre actuelle a son prédécesseur, qui en 2003, qui était aussi professeur de médecine, vous voyez, mais c'est professeur de médecine, il ne voit pas la médecine comme moi, praticien de terrain. En 2003, monsieur Mattei, au bord de sa piscine, ne voyait pas qu'il y avait la canicule et que les urgences étaient débordées. Aujourd'hui, madame Buzyn ne voit pas que les urgences sont débordées et que les gens meurent sur des brancards en salle d'attente dans des conditions inadmissibles et inhumaines. Et ça, c'est pas la faute des professionnels, voyez. Parce que les collègues, je les ai eus ce matin, les collègues de Reims, ils sont désolés, voyez, qu'une personne soit morte. Mais c'est pas de leur faute. Ils courent dans tous les sens. Et j'espère effectivement que le fils va porter plainte. qu'on aura un procès. Je suis prêt à les témoigner pour dire qu'il y a des responsabilités institutionnelles, que depuis des années, nous naissons le manque de lits, nous les syndicalistes à l'hôpital, que nous sommes opposés à des fermetures de lits qui entraînent ces dysfonctionnements.
Est-ce que les urgences, la question que nous posons, est-ce que franchement les urgences, les services d'urgence se dégradent en France? Vraiment?
Mais les services d'urgence sont débordés.
Vous savez,
le problème des urgences, oui, c'est que nous sommes...
Alors les services se dégradent.
Mais les services aujourd'hui n'ont pas les moyens de pouvoir accepter d'année en année une augmentation d'activité de 4 à 5%. Pourquoi il y a cette augmentation d'activité? Parce que nous sommes effectivement le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements de nos systèmes de santé. On pourrait avoir beaucoup moins de gens aux urgences s'il y avait plus de médecins généraux disponibles en ville, mieux répartis sur le territoire. Si nous avions des médecins dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, qui puissent éviter des hospitalisations. Vous savez, moi, je suis médecin urgentiste, je vais régulièrement dans les EHPAD et je fais les prescriptions, parce qu'il n'y a pas de médecin, pour éviter l'hospitalisation de personnes âgées qui sont beaucoup mieux dans les EHPAD. Mais malheureusement, si je fais une prescription, la nuit, il n'y a qu'une aide-soignante. Mmh. Et pour donner les médicaments, pour mettre une perfusion, il faut une infirmière. Il n'y a pas d'infirmière. Donc, effectivement, s'il y avait plus de personnel dans les maisons de retraite, s'il y avait plus de médecins généralistes en ville, on aurait peut-être moins de passages aux urgences. Vous savez, pour revenir à l'époque de Monsieur Mattei, il y avait 12 millions de passages aux urgences à cette époque-là. On est quasiment à 20 millions. Nous préférions revenir à 12 millions, mais ça veut dire qu'on remette à plat l'ensemble de notre système de santé, que quand on a 42 fièvres, on puisse avoir un médecin généraliste qui puisse nous recevoir dans la journée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc les gens viennent par défaut aux urgences.
Alors justement, Christelle est médecin dans la Marne. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Bonjour, vous écoutez votre confrère, hein, Christophe Prudhomme, qui est médecin urgentiste. Que dites-vous de votre côté, Christelle?
De mon côté, alors je vais essayer. Alors de mon côté... Les médecins généralistes disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains territoires, il y a ce qu'on appelle un système de garde, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui sont d'astreinte en semaine de 20h à minuit, le samedi, le dimanche. C'est-à-dire que en permanence, on va dire, il y a les médecins qui consultent la journée et à partir...
Allô?
Allô?
Oui, allez-y, Christelle.
Voilà, en passant par le centre 15,
oui.
En tout cas dans mon secteur, les patients ont la possibilité de consulter un médecin qui est d'astreinte. Voilà.
Oui.
Donc déjà pour ça, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ne sont pas... Moi, je fais une campagne d'information auprès de mes patients en disant, au lieu de courir aux urgences avec tendre, appelez le 15, il y a un médecin d'astreinte, du lundi au dimanche.
Ben voilà, il y a une solution. Oui. Attendez, je vous coupe, parce qu'on vous entend pas très bien.
Je travaille quotidiennement au SAMU de Seine-Saint-Denis.
Bon, ben alors.
Le problème au centre 15, c'est qu'il faudrait qu'on ait aussi du personnel. Vous savez, cet hiver, pendant l'épidémie de grippe, un certain nombre de centres 15 n'ont pas décroché 30% des appels. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que, bien sûr, il faut que les gens appellent le centre 15 quand ils ont un problème de santé pour qu'on les oriente. Mais pour pouvoir les orienter, je vais vous donner un exemple très précis. Livry-Gargan, c'est une commune de Seine-Saint-Denis. J'ai eu, il y a quelques jours, au téléphone, une personne âgée, un couple, qui vit à domicile, 85 ans. Depuis 2 ans, ils n'ont plus de médecin traitant, parce que leur médecin traitant est parti à la retraite et il n'a pas été remplacé. Et donc, quand ils ont un problème, ils appellent le 15. Mais appeler le 15 pour un suivi médical traditionnel,
ça ne
fonctionne
pas. C'est vrai à Livry-Gargan, mais peut-être que Christelle est dans la Marne, territoire rural.
Dans les territoires ruraux aujourd'hui, il y a de moins en moins de médecins.
Mais le 15, ça fonctionne bien alors?
Non, je suis dans un territoire rural et en fait, quand je parle du centre 15, c'est pas pour avoir des consultations.
Oui.
C'est juste, en fait, pour la régulation. Et après, ils vont dire, bon, on va alerter le médecin de garde qui va soit se déplacer à domicile, au moins pour l'urgence. Je parle pas du chronique, je parle de l'urgence. Là, on parle de l'urgence. Ou qui va dire, bon, votre état, vous n'êtes pas capable de vous déplacer. Déplacez-vous à la maison médicale de garde, vous verrez un médecin qui va vous ausculter et qui va estimer si votre état de santé nécessite d'aller aux urgences. Et à ce moment-là, c'est le médecin qui appelle l'ambulance, le médecin qui informe le médecin régulateur et il y a un transfert vers les urgences. Mais je veux dire, en amont, s'il y avait déjà ce système-là qui était déployé, on pourrait déjà faire un tri dans les rurales. Après, moi, j'ai fait ma formation de médecine à Marseille et à Marseille, à la Conception, il y avait un système à cette époque-là avec une infirmière d'orientation qui voyait les patients à l'accueil, qui expliquait rapidement les symptômes, qui faisait un tri. Ma proposition quand j'ai appelé, c'était, et si à la place d'une infirmière, on mettait un interne en médecine qui est déjà en médecine, qui trie? C'est-à-dire le but, c'est d'avoir un cabinet de médecine générale de garde dans un bureau de l'hôpital, je l'ai vécu. J'ai été externe là-bas, j'ai été interne. J'ai consulté des patients qui venaient pour des grippes, des bronchites, des gastro, dans un cabinet médical, dans l'hôpital, en tant qu'externe.
Christelle, donc vous dites les urgences, il y a des solutions pour désengorger les urgences.
Non mais moi je crédite pas ses collègues qui s'investit dans son département. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, pour une collègue qui effectivement participe encore au service de garde, de nombreux départements aujourd'hui n'ont plus de système de garde, n'ont plus de médecins qui se déplacent à domicile. Il y a éventuellement des maisons, ce qu'on appelle des maisons médicales de garde, mais il faut que les patients se déplacent. Tout le monde ne peut pas se déplacer, en particulier les personnes âgées. Donc on est aujourd'hui dans un système qui, le nombre d'appels au centre 15 a explosé ces dernières années. Le nombre de passages aux urgences a explosé. Il y a des raisons. Une des raisons pour lesquelles les patients viennent aux urgences, c'est que bien souvent ils ont des difficultés pour avoir un rendez-vous dans la journée auprès de leur médecin. Ensuite, quand ils vont chez le médecin, comme le médecin exerce dans un cabinet souvent isolé et non pas dans un centre de santé où il y a un minimum de moyens, il faut une prise de sang, faut prendre un rendez-vous au laboratoire, il faut une radio, faut prendre rendez-vous au cabinet de radiologie. Si les gens viennent aux urgences, même s'il reste 6 heures, ils ont tout sur place. Donc le problème aujourd'hui, c'est
une facilité aussi d'aller aux urgences pour beaucoup.
C'est une facilité, mais
aussi une forme de déresponsabilisation des patients,
écoutez monsieur Bourdin, je l'ai dit à la ministre, venez en salle d'attente et expliquer aux gens qui sont là qu'ils viennent pour rien. Ils viennent par défaut, ils ont cherché avant. Vous savez, les abus, il y en a toujours eu, mais il n'y en a pas plus qu'avant. Et les gens viennent. Et il y a certains qui s'excusent de venir aux urgences, mais en disant j'ai cherché et je n'y arrive pas. Il y a des gens qui s'excusent d'appeler le centre 15 parce qu'ils ont essayé d'appeler leur médecin et ils ne l'ont pas trouvé. Vous voyez, donc le problème aujourd'hui, c'est que les urgences sont le miroir grossissant de tous ces dysfonctionnements. Il est clair qu'aujourd'hui, si nous avions plus de médecins généralistes, vous voyez, il n'y a pas que nous qui le disons, aux États-Unis aujourd'hui, le plus grand journal médical aux États-Unis dit, arrêtons de former des spécialistes, formons des généralistes, nous avons besoin de généralistes parce qu'on a une population qui vieillit et on a besoin de plus de généralistes qui s'occupent de patients qui ont des maladies chroniques et qui nécessitent, quand ils ont un problème, eh bien, ils appellent le médecin le matin, il faut qu'ils puissent le voir dans la journée. Or aujourd'hui, souvent, parce que nos collègues sont débordés, je leur jette pas la pierre, c'est je peux pas vous prendre, je vous verrai dans 48 heures. Souvent, c'est trop tard.
Nous allons prendre un autre exemple. Jocelyne, qui est à Chambray-les-Tours, en Indre-et-Loire, mais après la pub, 9h19, Christophe Prudhomme est médecin urgentiste à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France.
Les urgences se dégradent-elles? Vous votez oui ou non par SMS au 6-10-61.
À tout de suite.
RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin.
Jocelyne est avec nous. Bonjour Jocelyne.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes à Chambray-les-Tours, Indre-et-Loire.
Tout à fait.
Alors, les urgences, hôpital de Tours.
Hôpital de Tours, où je travaille, dans les laboratoires.
Vous travaillez dans le laboratoire de l'hôpital de Tours. Racontez-nous, Jocelyne.
Voilà. Alors, en fait, moi, je vous explique que j'ai eu deux fois l'occasion, alors, pour mon papa qui est en maladie de Parkinson.
Oui.
Avec des problèmes d'hallucination dû au traitement, enfin bref, donc des choses et des choses comme ça. Donc, première fois, alors des fois on nous dit c'est le week-end, là c'était un mardi, donc il n'y avait pas de souci le week-end. Juste arrivé à 10h30 le matin, 7 heures d'attente, sans boire ni manger, on prie à 19h le soir, excusez-moi parce que je suis un peu perdue parce que je suis en plein travail. Oui, donc arrivé à 10h30 le matin, prie à 19h le soir.
9 heures d'attente.
Voilà, ça c'était la première journée. Voilà, maladie de Parkinson avec hallucination, ne pouvant pas rester chez lui, se mettant en danger, étant tombé, bref. À 23h, on décide quand même de lui faire un IRM parce que, comme il était tombé, voir s'il n'avait pas eu un problème à la tête. On nous dit, manque de lit, on le garde sur un brancard. Il est resté 2 jours sur un brancard aux urgences. Au bout de 2 jours, on l'a renvoyé chez lui parce qu'il n'y avait pas de lit disponible. Moi, j'étais démunie. C'est moi qui me suis démenée. Pour avoir un lit dans le centre de Parkinson qui se trouve sur un autre site, parce qu'en fait à Tours on a Trousseau et Bretonneau.
Donc
pour qu'il soit admis dans ce service-là, et j'ai quand même réussi à avoir une hospitalisation à partir du lundi en me battant. Ça c'était la première fois. La deuxième fois, pareil, arrivé le matin à 10h30, prise le soir à minuit, parce qu'une infirmière a eu pitié de moi, parce que mon papa pouvait pas parler, fallait que je reste avec lui, en me disant, mais c'est pas possible, vous êtes là depuis 10h30 ce matin. J'ai dit, oui, madame. Mon papa n'avait ni mangé, ni bu. Parce que tant que vous ne voyez pas un médecin, vous n'avez pas le droit de manger et de boire, hein, faut le savoir. Donc, voilà, vu par une externe, parce que l'infirmière avait pitié de moi, vu une heure après par une interne, qui malheureusement devait commencer son service, qui savait pas trop quoi faire. Je dis, est-ce que je peux vous le laisser rentrer chez moi? Parce qu'il était quand même 2h du matin. Il me dit, non, lui fait une prise de sang, vous annoncez. Passage du médecin à 3h du matin qui me dit, bah, écoutez, non, les résultats sont bons, vous pouvez le ramener chez vous.
Mmh.
Et là, j'ai dit non. Ouais. J'ai dit non, moi, il faut que j'aille me coucher quand même, dormir 2-3 heures, parce que le lundi, je reprenais mon travail. Ouais. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce que le monsieur a dit d'avant. Parce que nous, on voit vraiment les choses se dégrader, avec toutes les fermetures de lits. Et ça, parce que il y a des bons soignants. Enfin, je veux dire, on sent que voilà, enfin, les gens ont à cœur de faire le boulot. Moi, je veux vous dire sincèrement, je suis dans les laboratoires, j'entendais ce qui se passait dans les services, mais nous, on est un petit peu indépendants, je ne le voyais pas. Il a fallu vraiment que je me trouve au cœur du problème pour voir ce qui se passait. Et il y a vraiment une dégradation depuis un an, mais très très forte, hein, parce qu'il y a encore un an, mon papa, quand il était hospitalisé, ça se passait pas comme ça, mais il y a vraiment une grosse, grosse... Et les fermetures de lits, je veux dire, on dit qu'il y a de plus en plus de maladies de Parkinson, de maladies d'Alzheimer, on ferme des lits dans ces services-là.
Oui, Christophe Prudhomme.
Et oui, voilà, donc ce que nous demandons aujourd'hui, depuis des années, mais là avec encore plus de force, parce que le système est en train de s'écrouler. Voilà, c'est ce que décrit cette auditrice. Nous demandons à la ministre un moratoire à toute fermeture de lits. Or là, on ferme des lits régulièrement dans les hôpitaux. On ferme des services d'urgence. En Bourgogne, on va fermer 5 services d'urgence. Donc vous imaginez, si vous fermez des services d'urgence comme à Clamecy, à Tonnerre, à Joigny, à Châtillon-sur-Seine, les gens vont aller où? À 50 km, à Dijon qui est déjà débordé. C'est pas possible. Arrêtons de fermer les hôpitaux de proximité. Mmh. Arrêtons de fermer des lits. C'est un cri d'alarme. Et je le dis, je considère moi aujourd'hui que les parlementaires et la ministre qui continuent à nous expliquer qu'il y a trop de lits, qui viennent sur le terrain. Moi, je pense que la ministre aujourd'hui, elle a une responsabilité morale sur le décès de cette patiente dans des conditions qui sont inadmissibles. Il faut qu'elle vienne sur le terrain. Je vous le dis, elle peut pas se retrancher derrière sa qualité de médecin. Elle travaille dans le même établissement que moi, l'assistance publique. Vous savez, entre le professeur de médecine qui ensuite va à la haute autorité de santé, qui vient ministre, et puis moi, le médecin du SAMU en Seine-Saint-Denis, il y a un monde. Il n'y a pas les médecins. Il y a les gens qui sont sur le terrain, et puis il y a les gens effectivement quand ils ont un problème. Ils habitent à Paris, ils appellent SOS Médecins, mais ils habitent pas à Clamecy. Hein, vous voyez, ils habitent pas à Bagnères-de-Bigorre, ils habitent pas à Valognes, où là aujourd'hui c'est la croix et la bannière pour trouver un médecin, et c'est la croix et la bannière pour aller dans un service d'urgence, parce qu'il faut faire aujourd'hui 30, 40, 50 kilomètres.
Merci Jocelyne. Bien, nous continuons, 9h26, vous continuez à appeler, il y a beaucoup de réactions.
Oui, alors beaucoup de témoignages qui sont très personnels à chaque fois, de récits, d'attentes aux urgences, je peux pas tous les lire évidemment. Il y a un moment, il faut que les choses soient super claires, vous nous disiez un auditeur, c'est de l'argent qu'il faut, faut le dire clairement, on a besoin d'argent et on a besoin de mettre beaucoup d'argent dans l'hôpital.
Ou autrement.
Mais écoutez, on ne demande pas aujourd'hui plus d'argent, on demande l'arrêt des plans d'économie. Vous savez, là, on a une revendication qui est tout à fait claire. L'hôpital aujourd'hui, 70% de ses dépenses sont les salaires. L'hôpital paye un impôt injuste qui s'appelle la taxe sur les salaires, 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, c'est 100 000 emplois à l'hôpital. Le gouvernement aujourd'hui a fait le choix non pas d'utiliser ces 4 milliards d'euros pour supprimer la taxe sur les salaires, il a supprimé l'ISF pour 4 milliards d'euros. C'est un choix. Et c'est un choix, nous, qu'on critique. On aurait bien aimé pouvoir bénéficier de ces 4 milliards d'euros. Vous voyez, on ne touchait pas aux finances de l'État. Plutôt de supprimer l'ISF, on supprimait cet impôt injuste qui s'appelle la taxe sur les salaires. Un emploi moyen à l'hôpital, ça coûte avec les cotisations sociales à peu près 40 000 euros.
Mais c'est quoi cette taxe sur les salaires?
Cette taxe sur les salaires, c'est un impôt qui est prélevé sur l'hôpital qui remplace la TVA. Dans le secteur marchand, vous avez la TVA et l'hôpital, vous avez la taxe sur les salaires. C'est 12%, 12% des salaires. Vous regardez votre fiche de paye, taxe sur les salaires, c'est de l'argent de la sécurité sociale qui est prélevé par le biais de cet impôt et qui va dans les caisses de l'État. On supprime cet impôt. Plutôt que de supprimer l'ISF, c'est la même somme, 4 milliards. On touche pas à l'équilibre des finances de l'État. Donc vous voyez, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on demande? On demande pas la lune. On demande d'arrêter les plans d'économie, de nous soulager en supprimant la taxe sur les salaires, d'arrêter de fermer des lits, d'arrêter de fermer les hôpitaux de proximité. Parce que vous savez, l'argument, on ferme parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Déjà, si on répartissait mieux les médecins sur le territoire, si on choisissait mieux le nombre de spécialistes dans chaque spécialité...
C'est pas l'État qui va répartir les médecins sur le territoire.
Attendez, pourquoi c'est pas l'État qui va répartir? Qui est responsable de l'organisation?
Parce que les médecins ne sont pas d'accord.
Quels médecins ne sont pas d'accord? Les nouveaux médecins qui sont majoritairement
aujourd'hui... Qui n'ont pas envie de se retrouver dans des petites villes où la famille peut pas vivre comme...
Alors je vais vous donner un exemple. Cône-sur-Loire. Oui. Cône-sur-Loire, un petit hôpital où il y a un service d'urgence. Un collègue est venu s'installer à Cône-sur-Loire. Oui. Et sa femme continue à travailler à Paris. Elle prenait le train tous les matins. modification des horaires de la SNCF, suppression de trains, elle peut plus venir à Paris, il quitte Cône-sur-Loire. Donc la question aujourd'hui, c'est que effectivement, si on garde le système de la médecine libérale tout seul dans son cabinet, personne ne veut y aller, y compris les collègues roumains repartent chez eux. Oui. Aujourd'hui, il nous faut des centres de santé avec des médecins salariés rattachés aux hôpitaux, et là vous verrez que vous aurez des candidats. Il n'y a pas de candidats pour reprendre des cabinets de médecine.
Ça commence à se développer, les centres de santé.
Non, on développe des maisons de santé, mais on reste dans le cadre de la médecine libérale, rémunérée à l'acte. Or aujourd'hui, comment vous voulez prendre en charge correctement une personne âgée quand vous êtes médecin généraliste à 25 euros la consultation? C'est pas sérieux. Aujourd'hui, pour certains patients, et ils sont de plus en plus nombreux, il faut mieux être dans une équipe pluriprofessionnelle, médecin, infirmière, salarié dans un centre de santé qui est une annexe de l'hôpital en ville, dans les villages autour de l'hôpital, et là vous pourrez recruter, parce que les spécialistes y viendront consulter ponctuellement dans ce centre de santé et travailleront à l'hôpital. Les médecins généralistes y pourront aussi travailler, par exemple sur la filière de consultation aux urgences pour ce qu'on appelle les petites urgences. Aujourd'hui, ce que cherchent les jeunes médecins, plus personne ne s'installe en libéral aujourd'hui. 9% des jeunes s'installent en libéral à 40 ans. Par contre, si vous proposez des postes de médecine salariée, regardez, moi je suis de la CGT, en Saône-et-Loire, le président du conseil départemental est d'une autre couleur politique que la mienne, les Républicains. Ils créent un centre de santé départemental avec des médecins salariés parce que c'est la seule solution. Donc vous voyez, il y a des réticences parce qu'effectivement, il y a une partie des médecins qui sont attachés à un système qui est en train de mourir, qui est le système de la médecine libérale qui date des années 20 du siècle dernier. Ces principes datent des années 20 du siècle dernier. Liberté d'installation, liberté effectivement de prendre des dépassements d'honoraires. Ça correspond pas à ce que souhaite la population. Ce que souhaite la population, c'est d'avoir, dans le cadre de l'aménagement du territoire, des médecins à proximité, des hôpitaux de proximité, c'est-à-dire une gestion de ressources, et c'est le rôle de l'État de gérer ces ressources, des ressources humaines qui sont aujourd'hui en nombre insuffisant. Mais pourquoi? Parce que depuis 30 ans, on a fermé les facultés de médecine. Aujourd'hui, 60 000 jeunes s'inscrivent en première année de médecine. Il n'y a que 8200 places pour devenir médecin. Et un certain nombre de jeunes Français partent en Belgique ou en Roumanie pour faire des études de médecine. On marche sur la tête.
Christophe Prudhomme était notre invité. Que disent les auditeurs d'RMC?
Les urgences se dégradent-elles? Réponse finale, oui à 87%.
Oui à 87%. Merci Christophe Prudhomme d'être venu nous voir ce matin à 9h31. Notre second bureau de vote,
c'est tout autre chose. Oui, envisagez-vous de vous faire tatouer? Vous nous le dites par SMS ce matin. Oui ou non au 6-10-71. Et j'ai une question qui vient d'arriver. Vous pourrez peut-être répondre avec Tintin. Est-ce que Jean-Jacques, si Nîmes monte en Ligue 1, vous vous tatouez un crocodile?
Non.
Non,
non, non. Quoi qu'il arrive,
si c'est Tintin.
Même si c'est un temps. Non. Il est 9h31.
RMC Bourdin Direct, bureau de vote. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 9h36, merci d'être avec nous. À 9h36, nous sommes avec Tintin, qui est fondateur du syndicat national des artistes tatoueurs. 5000 à peu près tatoueurs en France, c'est bien cela, à peu près hein.
Oui, 5000 boutiques répertoriées, chacune a sûrement deux ou trois tatoueurs à l'intérieur.
Et d'autres qui sont un peu moins tatoueurs, quoi. Hein. C'est ce que nous disait ce matin le rédacteur en chef de Tatouage Magazine, c'était... Il nous disait, bon, il y a des tatoueurs professionnels, des vrais artistes, et puis il y en a d'autres qui sont...
Ouais, qu'on appelle les scratchers, il y en a beaucoup, malheureusement.
Malheureusement. Les scratchers, pourquoi?
Les scratchers, qui abîment la peau en tatouant, quoi. C'est un anglicisme.
D'accord. Moi, j'ai pas envie de connaître un scratcher.
Comment on choisit, justement? Il y en a tellement maintenant...
Il y a ceux qui choisissent plus ou moins bien. Pour choisir, on vient au Mondial du Tatouage et on voit ce qui se fait de mieux au monde, notamment, les meilleurs tatoueurs du monde, ça vous permet de comparer après le tatoueur que vous avez en bas de chez vous ou dans votre ville, de savoir quel niveau il a. Faut acheter Tatouage Magazine, faut se renseigner sur Internet. Ça devient assez facile de s'informer quand même aujourd'hui, de savoir ce qui se fait de mieux. Mais malheureusement, il y a aussi le pire et malheureusement, le pire trouve crédit puisqu'il y a des gens qui se font tatouer par eux. Donc c'est que ça leur convenir quelque part.
Le prix, c'est un critère? Le prix?
Pas vraiment, puisqu'on se rend compte que les plus mauvais sont quasiment au même prix que les meilleurs, donc je pense que ce ne sera pas un critère.
Oui. Alors, vous parliez du mondial du tatouage, vous êtes l'organisateur du mondial du tatouage, c'est ce week-end à Paris, 8e mondial du tatouage à la grande halle de la Villette, 420 tatoueurs, 40 pays représentés cette année. Les Français sont très en pointe dans le tatouage,
il y a effectivement une jolie scène française, il y a des très bons Français, je me fais un point d'honneur à ce qu'il y ait au moins un tiers de Français sur les tatoueurs représentés au mondial. Et oui, on a des très 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 bons français. Je pense au jeune Michael Taguet notamment, là, qui fait des tatouages que plus vrais que des photos, quoi. Incroyable.
Ouais, plus vrais que des photos. Ouais. Mais dans le monde aussi, parce que ça se développe en France, hein, le tatouage. Est-ce que ça se développe partout dans le monde? Est-ce qu'il y a des régions du monde, partout, des pays, des continents où ça se développe plus qu'ailleurs ou...
Ben, j'ai pas l'impression, puisque c'est vraiment un boom mondial, et autant en Russie qu'en Chine, de Taïwan, tous les jours on entend parler de nouveaux tatoueurs avec un niveau incroyable et dont on n'avait pas entendu parler la veille, alors que quand j'ai commencé le tatouage, on était une vingtaine de prédominants sur la planète et on se connaissait tous entre nous, alors qu'aujourd'hui, voilà, on est complètement perdu, il y a tellement de talents, c'est fou.
Il y a tellement de talents. Je regarde, il y a des talents et il y a aussi de plus en plus de Français qui sont tatoués. Les chiffres, alors on les a pas totalement, mais les Français de plus de 18 ans, ça représente quoi, 6, 7, 8 millions de Français?
Ouais, il y a beaucoup de gens, il y a 16% des Français qui sont tatoués aujourd'hui, c'est pas négligeable.
Depuis 18 ans et de plus en plus de femmes.
Ouais, il y a plus de femmes que d'hommes de tatoués aujourd'hui, on se rend compte.
Plus de femmes que d'hommes.
Ouais, légèrement plus.
Mais pourquoi? Parce qu'il y a c'est une volonté de s'affirmer, d'affirmer une indépendance, une liberté.
Pour certaines personnes, oui, on peut dire ça. Ou c'est une volonté de se décorer, ou une volonté de faire plaisir, ou une volonté d'être jolie. Ou il y a, vous savez, les motivations sont multiples. Hein, on peut
évidemment.
Pas...
C'était plus tabou avant, peut-être pour une femme de se faire tatouer que pour un homme. Il y a 10-20 ans.
Peut-être un peu plus, vous savez, il suffit de deux, trois chanteuses, deux, trois actrices, ça fait changer l'esprit des gens assez rapidement.
Oui, non, mais c'est évident. Et puis, le tatouage fait moins peur. C'est moins tabou qu'avant.
C'est vrai.
Bon, enfin, qu'avant, ça dépend quand. On avait le tatoué ou la tatouée était tout de suite catalogué. C'est moins vrai maintenant.
C'était un peu, les marlots dans les années 50, dans les années 60, mais il y a eu aussi d'autres cultures et d'autres contrées où c'était réservé aux rois et aux reines et c'était un signe de distinction en Polynésie ou ailleurs, je pense, chez les Maoris, où on écrit toute l'histoire de sa famille, où c'est au contraire un signe de distinction sociale suprême. Donc, tout dépend de la contrée.
Winston Churchill était tatoué.
Tout à fait. Les trois Yalta étaient tatoués. C'est l'anecdote la plus fameuse. Churchill, Roosevelt et Staline.
Étaient tous les trois tatoués. Non, mais quel était le tatouage de Staline?
Il avait une tête de mort sur la poitrine.
Tête de mort sur la poitrine. Et Churchill?
Churchill, je crois que c'était une sorte de blason sur le bras. Et Roosevelt, c'était un tatouage de marine, c'est ce qu'il me semble.
Ah oui, non, mais c'est incroyable. Les trois de Yalta étaient tatoués.
C'est pour ça que De Gaulle, il avait été viré. Quand il dit, t'as pas de tatouage, tu dégages.
Oui. Il prenait la photo, non?
Les techniques ont, j'imagine, terriblement évolué.
Pas terriblement, non. Bon, moi j'utilise une technique qui est vieille de plus de 100 ans, le dermographe qui a été inventé à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, il y a des nouveaux dermographes. C'est vrai que pour être tatoueur jusqu'à présent, il fallait être aussi un peu mécano et savoir s'en servir de ces dermographes, savoir les régler et c'est pas une chose facile. Aujourd'hui, il y a effectivement des nouveaux dermographes un peu rotatifs qui sont faciles à régler et qui ouvrent les portes de la profession à beaucoup plus de prétendants.
C'est donc de l'encre.
C'est de l'encre qui est poussée, entre le derme et l'épiderme et qui s'enquiste dans le derme.
Et qui s'enquiste dans le derme. Alors, c'est douloureux?
Oui, ça fait mal.
Ça fait mal?
Oui, après, là, on n'est pas égaux devant la douleur, donc ça dépend pour qui, ça dépend comment, ça dépend des endroits aussi.
Oui.
Mais je pense que ça fait partie intégrante de la magie du tatouage, le fait que, c'est permanent. Et puis ça fait mal, donc c'est pas un acte anodin qu'il faut pas faire n'importe comment. Mais c'est ça qui fait que c'est magique aussi, quoi. Si ça faisait pas mal, ça serait pas aussi magique.
Alors justement là, de voir qu'il y a quand même une mode, même si ça, il y en avait beaucoup, mais de voir de plus en plus de jeunes qui sont parfois très tatoués très tôt, ça vous agace pas vous de vous dire que c'est fait un peu facilement parfois?
Si, tout à fait, ouais. Très jeune, très tôt, très tatoué,
sans réflexion.
Je suis d'accord avec vous. Comme tout ce qui a du succès, il y a automatiquement des dérives et un revers de la médaille. Et malheureusement, il y a beaucoup de dérives et dans le tatouage, ça c'est vrai. Je suis d'accord.
Nous allons prendre des auditeurs. Tristan est apprenti Cholet dans le Maine-et-Loire. Bonjour Tristan.
Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Tintin.
Bonjour. Votre copine est tatoueuse.
Alors tout à fait, alors pour être plus précis, elle est en phase d'apprentissage, si je puis dire.
Oui.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le tatouage, l'apprentissage ne se passe pas du tout comme dans les autres corps de métier. C'est-à-dire que c'est plus de la pratique, donc sur des proches, sur des amis, sur la famille, sur elle-même parfois, pour s'apprendre à tatouer, puisque c'est un métier très compliqué, c'est un métier d'artiste.
Oui, c'est ça.
Oui, alors justement, on parlera du métier, hein, et des revendications des tatoueurs portés, entre autres, par Tintin. Tristan, oui. Vous êtes tatoué vous-même?
Absolument, j'ai tout le bras droit qui est tatoué. Donc, j'ai fait mon premier tatouage il y a à peu près 5 ans. Et le deuxième date d'il y a 2-3 ans.
Bon. Que disent toutes celles et ceux que vous croisez? Est-ce que vous avez des remarques aujourd'hui? Parce qu'il fut un temps où, quand on a été tatoué, on était montré du doigt. Aujourd'hui, ça ne surprend plus personne, non?
Bah, vous avez tout à fait raison, Jean-Jacques. Je pense que ça fait quelques années que maintenant le tatouage s'est assez rentré dans les mœurs. Je pense qu'il y a plus maintenant de 10% de la population française qui est tatouée. Et donc, la plupart du temps, c'est des retours positifs sur les tatouages. Et il n'y a plus de ce qu'on pouvait voir avant de dénigrement, si je puis dire.
Oui, c'est fini. Bien, merci Tristan. Nous allons continuer dans un instant. Il est déjà 9h44 avec Stéphane et avec Philippe, d'autres auditeurs. Et puis Tintin, qui est notre invité ce matin, fondateur du syndicat national des artistes tatoueurs et organisateur du mondial du tatouage. À tout de suite, 9h44.
Oui, il y a beaucoup de témoignages au 32-16. Nous, on vous consulte simplement. Envisagez-vous de vous faire tatouer, oui ou non, par SMS au 6-10-71.
RMC, Bourdin Direct, bureau de vote.
Vous avez posé la question de ces dames, Jean-Jacques. Du coup, on a eu plein d'auditrices qui ont réagi, comme Kat, qui nous dit simplement, j'ai hâte de faire mon cinquième pour répondre à la question. Lou nous écrit, j'ai passé le pas il y a 2 ans. Tatouage traditionnel japonais, non achevé, car un véritable chantier féminisé sur tout le dos, façon Yakuza. Fleur sur l'épaule droite, également japonisante, et tout le bras droit également. Je ne regrette en rien ma démarche, bien au contraire, je souhaitais juste une cohérence, une harmonie avec l'ensemble. Je suis ravi, j'ai découvert en plus un monde du tatouage que je ne connaissais pas. Et elle salue l'adorable jeune tatoueur Nico Aïssoir qui s'est occupé de ses tatouages. C'est Lou qui a 51 ans dans le Puy-de-Dôme. Corinne qui nous écrit, oui j'aimerais bien mais mon mari ne veut plus parce que j'en ai déjà 6, un au cou, un au ventre, un sur l'épaule, un au bas des reins, un sur la poitrine et un sur l'avant-bras. Max nous écrit, lui j'ai tout le bras gauche de tatoué depuis 10 ans plus quelques autres et je ne regrette pas. Mes tatouages sont décoratifs mais représentent les bons et mauvais moments, ne sont pas décoratifs pardon, ils représentent les bons et mauvais moments de ma vie, ils ont une histoire. Vous témoignez au 32-16, n'hésitez pas et vous votez, vous répondez à notre consultation, envisagez-vous de vous faire tatouer, oui ou non, 6-10-71.
RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, parlons, continuons à parler du tatouage. Stéphane et Philippe sont là dans un instant. Alors, dans un rapport de juillet 2016, la Commission européenne pointait les dangers des tatouages. Et puis on a appris, c'était mercredi, avant-hier, que des chercheurs français avaient découvert comment l'encre du tatouage se transmettait des cellules mourantes aux vivantes, ouvrant la voie à de meilleures techniques d'effacement du tatouage. Ça, c'est intéressant, ça.
Hein bah, écoutez, oui. On fait des recherches. Mais oui, bon, les techniques d'effacement du tatouage, ça a pas mal évolué, certes, mais c'est pas pour ça que les gens doivent penser que c'est un truc qui s'enlève facilement pour autant. Oui. Ça fait très mal, ça coûte très cher, ça dure une éternité. Ça peut se retirer sans faire cicatrice, mais c'est pas si facile qu'on le croit.
D'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites, Tintin, parce que votre discours ressemble évidemment au discours des médecins ou des chirurgiens esthétiques. Exactement la même chose. Réfléchissez bien avant d'engager soit une chirurgie esthétique, soit un tatouage. Mais c'est exactement pareil.
Bien sûr. Hein,
c'est exactement pareil. C'est une modification.
Ben oui, c'est une modification corporelle. Oui,
corporelle. Donc, faire n'importe quoi. Donc voilà, on ne fait pas comme on fait pas n'importe quoi quand tout à coup on se dit bah tiens je vais adopter un chien
ou
je vais adopter
un chat. Pas,
et,
voilà.
Et puis dans 6 mois ah bah non j'en veux plus parce que c'est compliqué parce que c'est exactement pareil. C'est une responsabilité.
C'est ça.
De choisir le tatouage. Qu'est-ce que vous voulez dire?
J'ai plusieurs questions qui arrivent pour Tintin par mail, notamment celle de Coralie que je trouvais très intéressante. Est-ce que vous avez déjà refusé de faire un tatouage? Et si oui, pour quelle raison?
Pour plein de raisons. Parce qu'on n'a pas envie de faire ce tatouage, parce que la personne est trop jeune. Si vous avez une personne toute jeune qui veut se faire tatouer une feuille de cannabis, on va lui dire, fume-en si tu veux, mais ne le dis pas aux autres. Par contre, si la personne à 55 ans veut se faire tatouer une feuille de cannabis, on va lui faire. Donc on a un devoir de conseils aussi, mais bon, il faut mieux expliquer plutôt que de refuser de but en blanc, parce que on va toujours trouver un tatoueur qui a moins de scrupules que vous et qui pourra vous le faire de toute façon.
Vous avez une autre question?
C'est Jérôme qui demandait, je le lis tel quel, demandait à Tintin de vous raconter l'anecdote sur le tatouage de son pote Dave.
Oui, oh non, on va pas la raconter à chaque fois.
Bon, allez, Stéphane est dans la Somme, à Beauchamp. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour Santin.
Vous êtes tatoué,
je suis pas dans la Somme, là, je suis sur le parvis de la Villette, puisque j'ai rendez-vous pour me faire tatouer tout à l'heure.
Ah d'accord, et vous allez aller au Mondial alors?
J'ai pris un passe 3 jours, ouais.
Super.
Passe 3 jours, bah génial Stéphane. Ouais. Alors, vous allez vous faire tatouer, premier tatouage?
Ah non, ça va être le 1, 2, 3, 4, ça va être le 6e.
6e tatouage, ouais.
Super. Ouais, le premier, je l'ai fait chez Bruno Tatou il y a 25 ans.
Oui.
Le deuxième, je l'ai fait il y a 24 ans, et les trois autres, je les ai fait, le dernier, c'était un an au Mondial du Tatou, et c'est pour ça que je reviens avec le même tatoueur, un tatoueur français lyonnais.
Oui.
Et qui tatoue avec classe.
D'accord, ouais, c'est qui, Stéphane? C'est Théo?
C'était où, quoi?
C'est Théo, le français, le lyonnais, c'est qui?
Ah, c'est Pandido, tatoué.
D'accord, Pandido, d'accord. Ouais, hier soir.
De toute façon, je pense que Tintin, on va se voir, puisqu'il m'a inscrit au concours Petite Pièce Couleur.
Ok, ça va. Bon, on se voit tout à l'heure, alors.
Stéphane, je peux vous demander quel tatouage vous avez choisi?
Oui, c'est un tatouage, je dirais c'est un héros, mais il tatoue plutôt style aztèque mexicain.
Ouais.
C'est un animal revisité, version Inca.
Voilà. Version Inca.
Le héros.
Ouais, le héros. Ah, d'accord. Ouais. Non, mais d'accord, Stéphane. Ok, voilà. Merci, Stéphane. Bon séjour parisien, Philippe. Et dans le Var, bonjour, Philippe.
Oui, bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, tout le monde.
Vous avez 58 ans, Philippe. Vous aussi, vous êtes tatoué?
Oui.
Oui, à quel âge vous êtes fait votre tatouage?
Il y a une quinzaine d'années. Ouais. Moi et ma femme, on s'est fait tatouer le même tatouage sur le mollet.
Sur le mollet, le même tatouage, c'est quoi? On peut savoir?
Alors, c'est une tortue maori avec une île, c'est l'île Chatham. C'est une île qui est à 800 km à l'est de la Nouvelle-Zélande.
Oui, tout à fait.
C'est toute une histoire, parce qu'on était en Savoie à l'époque et on construisait notre maison. En creusant la fosse septique, on s'est dit, tiens, si on creuse et qu'on traverse, où on arrive? Donc, la terre la plus proche, c'était l'île Chatham.
Voilà. D'accord.
C'était un délire avec ma femme.
Bon, ben, c'est un délire, pourquoi pas, hein,
je veux dire. Vaut mieux faire l'île que la fosse septique, je crois, Philippe.
Oui, non, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Mais, c'est génial, ça. Hein?
Ouais, c'est super, on regrette pas du tout, hein.
Ouais.
Et puis le truc c'était qu'on voulait y aller aux îles Chatham puisque c'est aux antipodes. Bon, pour des raisons financières on n'a pas pu à l'époque.
Ouais.
Mais donc on s'était fait tatouer ça sur le mollet tous les deux. Donc moi j'avais 42, 43 ans quoi.
Ouais.
Et ma femme veut en refaire un autre, un éléphant. Bon, moi je peux plus me faire tatouer pour l'instant, mais mes enfants sont tatoués, mon fils a un scorpion sur l'épaule, ma deuxième fille a un gros coquelicot sur le mollet, voilà.
Ouais.
On aime bien, sans se faire tatouer tout le corps, mais on aime bien d'avoir un tatouage comme ça. Voilà.
Merci Philippe. Tous les âges, hein, maintenant.
Ouais, tous les âges, bien sûr.
Il y a même des personnes âgées qui viennent, qui se disent, bon, maintenant...
Moi, j'ai tatoué ma tante, elle a 87 ans.
Donc, 87 ans, donc oui. Ouais.
Ça peut se faire.
Ouais. Alors, vous avez une revendication. Vous souhaitez être reconnu comme des artistes à part entière. Que je peux comprendre d'ailleurs.
Pour certains d'entre nous, c'est évident qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui ne sont pas des artistes et qui font un boulot médiocre. Mais par contre, il y a des grands leaders dans la profession, des gens qui tatouent leurs propres dessins et à qui on refuse le statut uniquement puisque leurs propres dessins, au lieu de les faire sur du papier, on les fait sur de la peau. Donc on nous refuse le statut d'artiste et ça fait depuis 2003 qu'on milite pour ça et on va y arriver, hein. J'ai tatoué un ministre l'année dernière, alors quand les ordres viennent du haut, quand c'est le ministre qui dit « moi je pense que ce monsieur est un artiste », on est un peu plus reçu plus rapidement au ministère de la culture.
Il y a un secret médical, il y a un secret du tatoueur.
Il y a un secret du tatoueur tout à fait, mais c'est un ministre très sympathique qui a révélé que je l'avais tatoué, qui m'a autorisé à le dire, qui s'appelle Jean-Michel Baylet, qui était le ministre de l'aménagement du territoire, qui était le plus vieux ministre du précédent gouvernement d'ailleurs.
C'est vrai. Okay. Dites-moi.
Oui, en parlant d'artistes, justement, moi j'ai découvert ça très récemment, certains vont se faire tatouer, non pas le dessin qu'ils ont choisi sur le lieu où ils veulent avoir ce tatouage, mais ils vont se faire tatouer par ce tatoueur, par cet artiste-là précisément qui peut presque faire ce qu'il veut.
C'est ça, c'est comme on pourrait être fan de Picasso, de Modigliani ou d'un autre. Au lieu de s'acheter une toile qu'on va mettre au-dessus de son canapé, on va s'offrir un tatouage par cet artiste très talentueux et on va lui donner un thème et on va lui laisser faire ce qu'il veut. Oui, ça arrive souvent, et bien sûr.
Sébastien, pour terminer, qui est couvreur à Bordeaux. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Vous avez un tatouage qui a combien d'années, Sébastien ?
Ouais, j'ai dû le faire il y a à peu près 8 ans.
Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive ?
Ah ben en fait, premièrement, bonjour Tintin, j'ai aussi voulu vous avoir hier et j'ai pas pu, mais c'est normal, il vient énormément mon message. Et deuxièmement, je suis super content de vous avoir, Jean-Jacques Bourdin. Voilà, je vous kiffe. Enfin bon, voilà.
Bon, ben, merci Sébastien. Alors allez-y.
Donc voilà, ça fait à peu près 8 ans, j'ai fait un tatouage. Un tatoueur m'avait été conseillé, je me suis dit bon, j'y vais. J'aime bien, c'est un polynésien, les marquis, vous savez, avec le tiki, dents de requin, écailles de tortue et tout ça. Et ça arrive souvent, au début non, mais maintenant oui. Il se met souvent en relief, en fait, il chauffe, il se met en relief. Et j'avais été voir un tatoueur en lui demandant ben pourquoi. Sa réponse était ça vous fait mal. Je lui dis ben non mais ça chauffe. Il me dit bon ben c'est rien, ça va passer. Enfin bon d'accord, mais bon c'est pas normal. Mais
c'est une réaction ça arrive à la chaleur souvent, au premier soleil ou un peu de chaleur. C'est une réaction un peu typique. Si votre si votre peau elle doit réagir, l'endroit où il y a le tatouage est un peu plus fragilisé sur votre peau et souvent c'est là que ça réagit. Ça arrive sur certains tatouages, ça gonfle de manière ponctuelle, mais c'est vrai que c'est
il faut essayer
ça
de repart pas la assez vite. Au soleil, ça, alors,
on n'a pas vraiment de raison exacte, mais oui le tatouage et le soleil c'est pas très copain et
c'est couvreur en plus donc
faut, couvreur, mais oui. ça reste pas
il
très longtemps.
Il est où votre tatouage sans indiscrétion?
Il est sur l'avant-bras.
Ah ben, vous couvrez vos bras.
Voilà, c'est quand on prend un coup de soleil notamment, et ben forcément le tatouage va être un peu en relief, mais on le notifie notamment parce qu'on a un tatouage, donc c'est là qu'on regarde, qu'on fait attention à sa peau. Mais la plupart du temps, quand on prend le soleil, on abîme sa peau, mais comme on n'a pas d'endroit pour focaliser, c'est pas à cet endroit-là qu'on va regarder. Mais c'est vrai qu'un tatouage peut légèrement gonfler au soleil par ponctuellement, ça arrive.
Donc rien à voir avec l'encre ou le matériel utilisé?
Non,
ou quoi.
Pas vraiment, puisque je l'ai vu arriver avec des plus la peau a été abîmée lors du tatouage et plus le tatouage est un relief cicatriciel et plus ça risque d'arriver. Mais je l'ai vu arriver avec des tatouages qui n'avaient aucun relief cicatriciel et qui avaient été réalisés par des très bons tatoueurs. Donc c'est pas une raison sûre.
Merci bon. Sébastien, merci Tintin, vraiment merci d'être venu.
De rien, merci de m'avoir reçu.
Bon mondial du tatouage, ça va bien se passer, j'en suis absolument certain. Je rappelle que c'est à la Halle de la Villette.
C'est ça.
Trois jours,
ça démarre aujourd'hui, là, et c'est vraiment la grand-messe du tatouage, ça va être un chouette truc,
avec des chouettes
concerts.
Il y a plein de concerts.
Graveyard, vraiment des super concerts.
Bon, envisagez-vous de vous faire tatouer, réponse finale, non à 54%,
oui,
ce qui fait oui à 46%.
Oui, c'est énorme. 9h58, merci de nous avoir accompagnés. Nous serons bon week-end à tous et nous serons ensemble lundi, évidemment toujours avec le même plaisir lundi.